Radio Stable.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
Et voici un jour dans le monde jusqu'à 19h. Escale reportage en Biélorussie, une dictature, ancienne république soviétique. Elle s'ouvre pourtant au tourisme. Sous les radars de l'actualité, Amélie Perrier, donc en Thaïlande, l'Afrique du Sud, l'Australie et les îles Cook. Le mardi, rendez-vous avec Julia Foyce, le monde pour toutes, au programme entre autres. Un rapport sur l'égalité des genres en Europe et une campagne de pub pour une grande marque sportive avec Serena Williams. Le monde à l'envers, Cyril Sauvageau, la session annuelle du Parlement en Chine en ce moment, dans un contexte pas très favorable à l'homme fort du pays, Xi Jinping. Tout de suite, Israël, qui va voter le 9 avril, élection législative.
Pierre Veil. Un jour dans le monde.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lancé hier soir sa campagne électorale, la campagne de son parti, le Likoud. C'était lors d'un meeting à Ramat Gan, près de Tel Aviv. Nous sommes opposés totalement à tout démantèlement des localités juives en Cisjordanie, a dit Netanyahou. Une réponse à Benny Gantz, ancien chef d'état-major de l'armée, qui dirige une coalition centriste donnée en tête dans certains sondages. Gantz a récemment évoqué un possible retrait israélien de certains secteurs de Cisjordanie. Jean-Pierre Filliou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, professeur à Sciences Po Paris. Vous avez écrit de nombreux livres sur le Moyen-Orient. Et là, vous publiez une étude du cas Netanyahou, je le rappelle, au pouvoir depuis près de 13 ans. Il a été Premier ministre de 1996 à 1999, puis de 2009 à aujourd'hui. Alors, le titre de votre livre, « Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste », vous racontez la carrière politique de Netanyahou, toutes les facettes de sa personnalité, personnalité qui sera bien sûr au cœur de la campagne électorale. Mais quand Benjamin Netanyahou dit hier soir « pas question d'évacuer une seule colonie juive de Cisjordanie », on est dans la grande tradition du personnage.
On est surtout dans la tentative de Netanyahou, jusqu'alors réussie, de faire de ces élections un référendum sur sa personne et de présenter la triple procédure d'inculpation qui a été lancée il y a quelques jours contre lui par le procureur général d'Israël comme un élément d'un vaste complot de la gauche, des Arabes, de la presse, de la justice, voire de la police, tout ça pour l'obliger à se retirer d'une partie de la Cisjordanie, alors que c'était absolument pas le sens de la campagne. D'ailleurs, Benny Gantz, ancien chef d'état-major, campe sur une ligne très dure. Il était encore très récemment sur le plateau du Golan, territoire syrien occupé et annexé par Israël en 1981, en affirmant qu'il continuerait l'implantation sur ce territoire occupé. Donc, ce n'est pas là-dessus que la campagne se jouera, mais c'est Netanyahou qui essaie de la détourner sur les questions de colonisation.
Mais vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, le conflit avec les Palestiniens, ce conflit territorial, intéresse beaucoup moins les Israéliens ?
Ah, c'est clair, hein, c'est évidemment une préoccupation secondaire dans la campagne électorale. On voit bien que ce n'est pas l'enjeu de la paix qui est au cœur des polémiques par ailleurs très très dures qu'il y a dans cette campagne, peut-être la plus dure de l'histoire d'Israël, mais c'est une certaine vision de la morale en politique, de la probité, de l'honnêteté. Je rappelle quand même que Netanyahou est accusé par le procureur général d'Israël de corruption, de fraude et d'abus de confiance dans 3 affaires différentes.
Le surnom de Benjamin Netanyahou en Israël, c'est Bibi. Et il y a eu dans le passé, vous le racontez dans votre livre, de nombreux scandales, des Bibi Gate. Et à chaque fois, Netanyahou s'en est sorti.
Oui, alors comme historien, je suis obligé de souligner qu'il n'y a qu'un Iran Gate, qu'un Watergate, qu'un Contragate. On en est à une dizaine de Bibi Gate aujourd'hui. Je rappelle, 3 affaires dans lesquelles le procureur général, qui est un ancien collaborateur de Netanyahou, le met en cause extrêmement durement, l'accusant, je cite, dans 57 pages d'une lettre réquisitoire qu'il lui a envoyée, d'avoir corrompu les fonctionnaires travaillant sous son autorité.
Oui, mais ça n'a pas l'air de troubler son électorat fidèle. Au contraire, on dit que ça peut le souder.
le souder parce que Netanyahou a adopté cette posture de combat, faisant comme s'il y avait ce vaste complot qui lirait contre lui tout ce qui s'oppose à lui. Et on voit en même temps à quel point cette posture divise, polarise, creuse les fossés dans une société israélienne qui a pourtant besoin beaucoup plus d'apaisement et de consensus.
Dans votre livre, vous utilisez deux mots pour qualifier Benjamin Netanyahou, perversité et médiocrité.
Oui, effectivement, j'y vais un peu fort, mais sachez que la plupart des adversaires israéliens de Netanyahou me reprochent une certaine complaisance à son égard, et notamment le fait que je le crédite d'une vision historique, alors qu'ils veulent en faire un simple opportuniste et un simple manipulateur. Et moi, je crois au contraire que Netanyahou est un refondateur. Il est en train de battre, un ou deux jours près, il a même déjà battu le record de longévité de David Ben-Gourion, le fondateur.
Mais alors, quelle est sa vision historique?
Alors, sa vision historique, c'est une vision profondément pessimiste qui s'inscrit dans le droit fil de la famille longtemps minoritaire du sionisme, ce qu'on appelle le révisionnisme, dont le père fondateur est Zev Jabotinsky et dont Menahem Begin, premier ministre en 1977, a été le premier continuateur. Et donc c'est une vision d'un conflit perpétuel, et on voit effectivement un Netanyahou qui va dans le monde entier, qui engrange les succès diplomatiques, il n'y a absolument aucun doute, mais qui a les relations les plus déplorables avec son environnement immédiat, mais qui pense qu'au fond ça n'est pas si grave si on peut s'appuyer sur une puissance extérieure.
Lui se présente comme le monsieur sécurité en Israël. Est-ce que c'est un homme, selon vous, qui sait parfaitement jouer sur les peurs des Israéliens, puisqu'il dénonce systématiquement un ennemi intérieur et aussi, bien sûr, des ennemis extérieurs, le Hezbollah au sud-Liban, l'Iran, bien sûr, le Hamas à Gaza?
Alors, cette construction de l'ennemi intérieur, j'y consacre une grande partie du livre parce que c'est assez fascinant. On commence de la part de Netanyahou par une diabolisation des Arabes d'Israël. Je rappelle que c'est quand même 20% de la population.
Ce sont les citoyens israéliens, ils ont le passeport israélien.
Oui, c'est donc 20% de l'électorat. Là encore, le slogan qui est donné, c'est Bibi ou Tibi, Tibi étant un
Ahmed député, Tibi, qui est un député arabe israélien, voilà. Très célèbre en Israël.
Voilà. Et donc on commence en diabolisant les Arabes d'Israël, et puis c'est la gauche au sens large. Il faut savoir que Netanyahou a réussi à faire que gauche est devenue pratiquement infamant aujourd'hui en Israël. Et puis c'est la presse, les médias, la justice, la police, et au fond tout ce qui s'oppose à lui, une espèce d'ennemi intérieur. Mais s'agissant de la menace extérieure, moi je suis très frappé. Il n'arrête pas de parler de l'Iran, le programme nucléaire. Il a tout fait pour que son grand ami Trump torpille l'accord qui avait été laborieusement négocié par Obama. Mais l'Iran n'a jamais été aussi présent en Syrie. L'Iran est aux portes d'Israël. Le Hezbollah a un arsenal beaucoup plus considérable. Et tout ça, eh bien, ça s'est passé sous les yeux de Netanyahou pendant qu'il était occupé à battre l'estrade à l'ONU, au Congrès, contre Obama, contre l'accord sur le nucléaire, et que la menace très réelle, elle se développait.
Mais alors lui, il dit « Je parle à Trump et Poutine, je suis le meilleur garant de la sécurité d'Israël face aux menaces du Hezbollah, au Liban, de l'Iran, du Hamas à Gaza, je suis en bonne relation avec l'Égypte du maréchal Sisi, j'ai été reçu par le sultan d'Oman, le pays connaît une croissance économique que beaucoup nous envient. » Que pensez-vous de ce bilan ?
Le bilan économique est incontestable, même s'il est construit sur des inégalités croissantes à l'intérieur de l'État d'Israël. Mais Israël ne peut pas être qu'une start-up nation. Israël, c'est justement la concrétisation de l'idéal sioniste. Il faut avoir une vision qui était une vision d'espoir au moment de la fondation de l'État d'Israël avec Ben-Gourion et de nouveau lors du processus de paix. Et s'agissant de Trump, effectivement, ils nourrissent les relations les plus intimes, mais le président américain n'a pas jugé même bon de l'informer lorsqu'il a décidé son retrait brutal de Syrie en décembre dernier, qui fragilise grandement la sécurité d'Israël. Donc là aussi, beaucoup d'effets de manche, d'effets d'annonce, mais en termes de sécurité, on n'est pas tout à fait certain que ça marche.
Cela étant, Netanyahou est au pouvoir depuis près de 13 ans. Qu'y a-t-il en face? Est-ce que en face de lui, dans l'opposition, il y a des personnalités qui proposent vraiment une autre politique?
Déjà, il s'oppose au système Netanyahou, c'est-à-dire au fait, le titre de mon livre c'est « Main basse sur Israël », la personnalisation extrême de la vie politique israélienne et toutes les affaires y afférentes. Il faut savoir que, selon le magazine Forbes, Netanyahou, avec 14 millions de dollars de fortune personnelle, est le premier ministre le plus riche de l'histoire d'Israël et qu'en 1977, Rabin avait démissionné simplement parce qu'on avait découvert un compte en dollars de son épouse aux États-Unis. Alors effectivement, Benny Gantz, donc à la tête de la coalition bleu et blanc, a été le chef d'état-major de Netanyahou et ses trois adjoints, c'est l'ancien ministre de la Défense de Netanyahou, l'ancien ministre des Finances de Netanyahou et un autre ancien chef d'état-major. Mais je crois qu'on est dans une situation où le système Netanyahou, qui est tellement identifié à sa personne, doit d'une certaine façon connaître son terme pour qu'un autre Israël soit possible. Et c'est peut-être cela que nous voyons sous nos yeux. Il faut savoir qu'il y a deux mois, tout le monde donnait Netanyahou gagnant à coup sûr. Et aujourd'hui, on voit que sa position est beaucoup plus fragile qu'on s'y attendait.
Mais sur les grands dossiers internationaux, sur ce conflit avec les Palestiniens, toujours pas réglé, sur les relations avec les autres pays du Moyen-Orient, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une politique nouvelle proposée, notamment par cette coalition centriste qui vient de se constituer avec à sa tête cet ancien chef d'état-major, Benny Gantz?
Là encore, on voit que Netanyahou, et c'est son habileté, il va se battre jusqu'au bout avec une très grande pugnacité, a réussi à imposer les termes du débat en immédiatement stigmatisant ses opposants comme étant de gauche, comme étant vendus aux Arabes chaque fois qu'ils ouvrent la bouche. Donc ils vont sur son terrain, mais ça c'est aussi le fruit de sa dizaine d'années au pouvoir. Et je crois qu'on ne pourra pas réellement comprendre l'alternative à Netanyahou tant qu'on ne sera pas sorti de l'ère Netanyahou elle-même.
Il y a aussi un facteur important, c'est que le style Netanyahou, ça plaît beaucoup aux Israéliens. Son côté, extrêmement vif, théâtral, grand communicant, ça plaît, ça donne une image d'Israël que beaucoup d'Israéliens apprécient.
Effectivement, Netanyahou a américanisé, on ne se rend pas assez compte, la vie politique israélienne avec des techniques de communication qu'il a importées des États-Unis où il a vécu 20 ans de sa vie. Et puis il y a les réseaux sociaux. Il faut savoir que sur les différents pages, sites de Netanyahou, on a 5,5 millions d'abonnés pour une population de 6,5 millions connectés à l'Internet. C'est énorme. Donc même s'il a beaucoup de followers qui vivent hors d'Israël, on voit qu'effectivement, son jeu sur les réseaux sociaux est redoutable.
Ce qui vous hérisse, et on le voit dans ce livre, Jean-Pierre Filu, je rappelle, « Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste », ce sont des déclarations souvent un peu délirantes, des contre-vérités historiques, et là-dessus, Netanyahou est un grand spécialiste.
Oui, c'est effectivement quelqu'un qui a essayé de réécrire l'histoire, et notamment l'histoire la plus sensible du peuple juif, l'histoire de la Shoah. Il a voulu attribuer à une personnalité palestinienne la responsabilité intellectuelle de la solution finale, ce qui était non seulement une contre-vérité manifeste, mais un scandale pour la région et pour Israël, qui d'ailleurs a été condamné par beaucoup de personnalités et par la première ministre allemande Angela Merkel. Donc voir la première ministre allemande revendiquer la responsabilité allemande dans la Shoah face à un premier ministre israélien qui voulait d'une certaine façon l'en disculper, c'était quand même un paradoxe un peu triste.
Le grand journal indépendant, un peu l'équivalent du Monde en Israël, c'est le Haaretz, et tout récemment le Haaretz, qui est pas tendre pour Netanyahou, écrivait « Quand Israël aura perdu Bibi, il y aura sûrement des moments où il regrettera de ne plus avoir un leader de stature internationale, reconnu par tout le monde et qui, qu'on l'aime ou pas, fait que le reste du monde relève la tête et prête attention quand il prend la parole. » Que pensez-vous de ce commentaire?
Oui, c'est effectivement assez paradoxal. Mais là encore, Israël est construit sur un système parlementaire. L'idée d'une personnalisation aussi brutale du pouvoir, avec aujourd'hui les affaires de corruption qui leur sont liées, va à l'encontre de l'esprit même de la démocratie israélienne. Et c'est là où on voit qu'on est face à des élections historiques, que Netanyahou, et c'est sa grande force, a transformé en référendum sur sa personne, et rien n'est joué, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est la grande force aussi de la démocratie israélienne.
Rendez-vous donc le 9 avril. Il faut rappeler que le mode de scrutin en Israël permet toutes sortes de combinaisons parlementaires, puisque l'élection à la Knesset se fait à la proportionnelle intégrale. Donc aucun parti ne peut avoir la majorité. Netanyahou ne peut pas avoir la majorité, mais il devra former, s'il arrive en tête, une coalition. Et là, on est parti pour de très longues négociations. Jean-Pierre Filiu, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle ce livre à la découverte, Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste.
France Inter, Pierre Veil, Un jour dans le monde.
Et à suivre dans Un jour dans le monde, escale reportage, le tourisme en Biélorussie, une dictature, ancienne république soviétique avec Fabrice Aubry. Sous les radars de l'actualité, Amélie Perrier. Et puis, le monde pour toutes. C'est le mardi avec Julia Foyce. Bonsoir Julia.
Bonsoir Pierre, bonsoir tout le monde.
Au programme, notamment une campagne de pub d'une grande marque sportive, Julia.
Oui, grande marque avec une virgule dans le logo. Bon, on dira pas ce que c'est, pas tout de suite. En tout cas, il y a Serena Williams en voix off, c'est vous dire si c'est chic.
Et puis le monde à l'envers vers 18h55. Cyril Sauvageau, bonsoir Cyril.
Bonsoir.
La session annuelle du Parlement chinois, c'est en ce moment, et le président chinois Xi Jinping n'est plus intouchable. Et
les ennuis s'accumulent effectivement pour Xi Jinping. Guerre commerciale avec les États-Unis, croissance en berne. Les critiques commencent à se faire entendre discrètement vis-à-vis du puissant président chinois.
Elle est fascinante, un peu lancinante. Elle dialogue avec le piano. C'est Cat Power, In Your Face. Cat Power, In Your Face, 18h36.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars de l'actualité, voici Amélie Perrier. Amélie, on débute avec une balade un peu romantique en Thaïlande.
Oui, c'est un petit peu kitsch.
Ouais, ça dégouline de glucose. L'auteur de cette guimauve musicale s'appelle Prayut Chan-o-cha et on le connaît très bien en Thaïlande. Alors parce qu'il écrit des chansons, mais surtout parce que c'est le chef de la junte militaire au pouvoir. Le général Prayut Chan-o-cha ne nous parle pas d'une amourette d'ailleurs ici hein, dans cette chanson. Nous sommes en quête d'un jour nouveau dans l'histoire de la Thaïlande, disent les paroles, vers une voie démocratique. Et c'est chanté par deux soldats. Le chef de la junte est une personnalité plutôt atypique. Hein. En plus de faire de la pop, il intervient sur tout un tas de sujets, les feuilletons télé, la nourriture, il anime des cours d'aérobic au siège du gouvernement. Et aujourd'hui, il ambitionne d'être élu, car il est arrivé à la tête du pays après le coup d'état de 2014. Il s'est autoproclamé Premier ministre. Là, il voudrait vraiment remporter officiellement les élections législatives du 24 mars. D'où cette chanson, Jour Nouveau, comme une déclaration d'amour à la Thaïlande et à son peuple. On ne sait pas encore si ce sera l'hymne de sa campagne.
Et on continue en musique, Amélie, mais en Afrique du Sud.
Un style un peu plus musclé, là. Et le tube est signé Babes Wodumo. Ça s'appelle Kadaz. Mais c'est une autre vidéo postée par la chanteuse qui fait beaucoup parler en Afrique du Sud. Une vidéo postée sur Instagram dans la nuit de samedi à dimanche. Ouais. Alors c'est pas facile à entendre, encore moins à regarder. Sur les images prises avec son portable, on la voit, cette chanteuse dans une chambre, se faire tabasser par un homme torse nu en caleçon. C'est son petit ami, dit la famille aujourd'hui. Depuis, les images ont été supprimées de son compte, mais elles sont devenues virales, reprises par son armée de fans. La police a ouvert une enquête pour identifier avec certitude les personnes sur la vidéo. Le petit ami est dans le viseur des forces de l'ordre, évidemment. Le ministre de la Culture lui-même s'est dit horrifié. Et sur Twitter, le gouvernement a relayé le mot-clé, hashtag arrêter les violences faites aux femmes.
Les violences contre les femmes condamnées aussi par le gouvernement en Australie.
Avec cette mesure radicale contre les étrangers, tous ceux reconnus coupables de violences envers les femmes et envers les enfants seront expulsés ou interdits d'entrer sur le territoire. Alors on sait la politique migratoire très stricte du gouvernement australien, sa lutte contre les délinquants étrangers. Est-ce une bonne excuse là pour fermer encore un peu plus ses frontières ou lutter vraiment contre les violences domestiques? En tout cas, le pouvoir ne fait pas dans la demi-mesure. Aucune peine minimale n'est requise pour priver le fautif de visa. Par le passé, Canberra avait déjà refusé ses visas à Chris Brown, le rappeur américain condamné pour avoir frappé la star Rihanna. Et même chose pour le boxeur Floyd Mayweather, persona non grata en Australie.
Et on termine ce tour du monde avec les îles Cook.
15 îles tropicales paradisiaques dans le Pacifique Sud, 17 500 habitants et leur nom qui aujourd'hui fait débat. Ce nom vient de l'explorateur britannique James Cook qui découvrit l'archipel en 1773. Mais depuis quelques semaines, un comité milite pour une nouvelle appellation plus proche des habitants autochtones. Alors ce que vous entendez là, c'est la langue des îles Cook. C'est un maori assez proche de celui de la Nouvelle-Zélande, mais très loin donc de l'anglais des colonisateurs. Une soixantaine de noms pour changer. Hein. Les îles Cook sont donc à l'étude. Au début du mois prochain, un seul sera soumis au gouvernement qui consultera ensuite la population par référendum. Le président du comité a déjà ses critères. Il doit y avoir un rappel de la foi chrétienne et de l'héritage maori. Le futur nom devra renforcer également les sentiments de fierté et d'union du peuple. Et si une précédente tentative avait échoué dans les années 90, après un exode assez important vers la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, de nombreux habitants reviennent sur leurs îles natales, un retour aux sources plus fort que jamais donc.
Amélie Perrier sous les radars de l'actualité, on se retrouve demain soir.
Avec plaisir, à demain.
Merci Amélie.
France Inter,
Doha, Harare, Jérusalem,
Pékin, le 18-20,
le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth, France Inter.
Et maintenant, l'escale reportage. Direction la Biélorussie, cet ancien pays soviétique assez fermé et encore largement dépendant de la Russie, tente aujourd'hui de s'ouvrir. Une ouverture notamment par le tourisme. Les autorités biélorusses ont choisi depuis l'été dernier d'exempter de visa les voyageurs européens qui viennent visiter le pays pour moins de 30 jours. Fabrice Aubry s'est rendu sur place donc et nous sommes à l'aéroport à Minsk.
Pour les Européens, l'aéroport international de Minsk est l'unique porte d'entrée du pays. Preuve que la Biélorussie souhaite accueillir au mieux les visiteurs étrangers, les annonces sont faites ici en russe, en anglais et même aussi en chinois. « En revanche, une fois arrivé au centre-ville de Minsk, toutes les indications sont données en biélorusse et il est parfois difficile de trouver un interlocuteur qui parle anglais. Larges avenues, grandes façades austères et statues de Lénine, ici on semble replonger à l'ère soviétique. Et pourtant, dans les rares auberges de jeunesse que compte la ville, quelques touristes sont présents, parmi eux Yann, qui vient de Turquie.
Je suis très intéressé par les anciens pays soviétiques, découvrir leur style de vie, leurs traditions. C'est pour ça que je suis venu à Minsk. Je trouve qu'il y a une atmosphère différente ici.
Découvrir une atmosphère différente, c'est aussi ce qui attire Varasu, qui est japonais.
Ouais, j'ai envie de découvrir tous les pays du monde. Je veux tout voir. Et ici, c'est sûr, il y a quelque chose d'original.
Cette ancienne république soviétique, peu connue, semble donc attirer quelques touristes en quête de découverte. Un phénomène qui nous est confirmé par Maria, la réceptionniste de l'auberge.
Beaucoup de touristes viennent visiter Minsk juste pour 3, 4 ou 5 jours. C'est très confortable ici. Il y a des personnes qui viennent d'Espagne, de Pologne, de France, d'Italie et bien sûr de Russie.
Des touristes à Minsk, mais aussi à Brest. Cette petite ville est située à l'extrémité ouest de la Biélorussie, tout près de la Pologne. Ici, il y a notamment la forteresse de Brest, l'un des vestiges de la Seconde Guerre mondiale et l'un des symboles de la résistance soviétique face à l'invasion allemande. Dans le centre-ville de Brest, à la tombée de la nuit, on aperçoit Viktor Petrovitch. Cet homme, âgé de presque 80 ans, est chargé tous les jours d'allumer puis d'éteindre manuellement tous les réverbères du centre-ville.
Cette tradition des allumeurs de réverbères remonte à 100 ans. À l'époque, deux personnes étaient chargées d'allumer 96 réverbères et d'en prendre soin. Puis l'électricité est arrivée, mais il y a 10 ans, le gouvernement a décidé de restaurer cette tradition. On est vraiment reparti de zéro, on a installé de jolies vieilles lampes et maintenant on fait revivre cette tradition. Tous les soirs, nous mettons du gaz d'éclairage en suivant un ordre bien spécifique qui est indiqué sur la grosse pierre située dans la rue. Dès que le soleil se couche, on allume et dès que le jour se lève, on éteint. En fouillant dans les archives, ils ont retrouvé une description précise de l'uniforme de la profession et ils en ont confectionné plusieurs exemplaires.
Dans le train entre Minsk et Brest, on rencontre Ludmila, cette Biélorusse d'une cinquantaine d'années et plutôt contente de parler avec des Français en visite dans son pays. Alors a-t-elle, elle aussi, l'occasion de voyager et de sortir facilement de la Biélorussie ?
Beaucoup de Biélorusses voyagent à l'étranger, en particulier en Europe, mais pas uniquement en Europe. En Asie, en Angleterre. Le visa coûte environ 60 euros et ce n'est pas un problème pour l'obtenir. Il faut passer par le centre officiel des visas à Minsk. J'ai dû moi-même m'y rendre pour obtenir un visa quand je suis allée à Londres. Mais je crois que les étrangers peuvent aussi venir en Biélorussie, même si c'est un tourisme différent. Il y a beaucoup de choses à visiter dans notre pays. Nous avons la grande forêt, Pusha Białowieska, où l'on peut voir des bisons. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de palais, parce que la guerre est passée par là.
De grandes forêts, mais aussi plus de 10 000 lacs et quelques châteaux comme ceux de Mir ou de Niagevive, récemment rénovés. La Biélorussie a donc un potentiel modeste, mais un potentiel tout de même pour tenter d'attirer les voyageurs qui fuient les grandes zones touristiques. Pour s'émanciper vis-à-vis de la Russie, il y a donc le tourisme, mais aussi certaines décisions politiques. En 2014, par exemple, pendant la crise en Ukraine, le gouvernement biélorusse choisit d'accueillir les réfugiés ukrainiens. Valentin est un jeune biélorusse, il a été témoin de cette situation.
Ils sont arrivés à Minsk sans argent, sans papier, uniquement avec de l'espoir. Et notre gouvernement les soutient et les aide autant que possible. La plupart d'entre eux se trouvent ici à Minsk, parce que ces réfugiés ne peuvent pas rentrer en Ukraine. Ils n'ont pas de papier ukrainien, ni d'endroit où vivre. Leurs maisons ont été détruites, il ne reste que des ruines. Pour eux, la seule solution, c'est de continuer à vivre à Minsk et en Biélorussie.
Alors combien de temps resteront-ils ? Une chose est sûre, cet accueil des réfugiés ukrainiens permet à la Biélorussie de s'affirmer face à son voisin russe.
Voilà le tourisme en Biélorussie, reportage de Fabrice Aubry. Coldplay en couleur latino rock, Chris Martin et son groupe avec les musiciens du Buena Vista Social Club, c'est formidable. Clocks. Voilà, Coldplay. Normalement, le refrain doit vous poursuivre pendant une bonne partie de la soirée.
France Inter.
So I want all the girls that a new day is on the horizon.
Pierre Veille.
You are scared of girls.
Un jour dans le monde.
Me too.
Et là, c'est la chronique pour tous avec Julia Foyce. Julia, tous les mardis, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde, des bonnes comme des mauvaises. Et on commence par la vidéo de la semaine.
C'est la dernière campagne Nike qui s'offre l'IP super championne de tennis Serena Williams en voix off pour dérouler à l'écran une série d'images d'archives du foot, du basket, de la course ou du ski. Des visages tendus par l'effort, des muscles saillants, la sueur perle sur des fronts plissés, le regard se visse sur l'objectif. On est dans le dépassement de soi, on est chez Nike ou on l'est pas. Ici, un sourire qui exulte, là, une colère qui éclate, quelques défaites, de belles victoires, mais surtout la rage de vaincre et l'envie d'en découdre chez celle qui... Ah oui, sur ces images, des femmes, rien que des femmes.
If we show emotion, we're called dramatic.
Si l'on montre nos émotions, on nous traite de drama queen.
If we want to play against men, we're nuts.
Si l'on veut jouer contre des hommes, on est des dingues.
And if we dream
Et si nous rêvons à l'égalité des chances,
delusional.
Nous sommes délirantes.
When we stand
Quand on se bat pour quelque chose,
we're unhinged.
On est dérangé.
When we're too good,
quand on est trop bonne,
there's something wrong with
il y a quelque chose qui cloche chez nous.
And if we get angry,
et quand on s'énerve,
we're hysterical,
on est hystérique,
irrational,
irrationnel
or just being crazy.
Ou folle.
Folle, crazy, c'est le mot-clé de cette campagne, car oui, dit encore la voix off, il faut être folle pour courir un marathon, monter sur un ring de boxe, porter un hijab et oser croiser le fer. Oui, elle est complètement folle, celle qui gagne 23 grands chelems, fait un bébé et ose revenir sur les cours pour gagner plus fort. Ça sent le vécu chez Serena Williams, qui conclut, soyez plus folles encore. Alors je sais, Pierre, ça peut sentir légèrement le féminisme washing, on peut se pincer le nez et se dire que quand même, vouloir vendre des pompes en surfant sur la vague MeToo, c'est un petit peu facile, voire carrément opportuniste. Mais on peut aussi se rappeler qu'en France, au même moment, une marque de jeans met des paires de fesses en gros plan sur des abribus avec ce slogan « Liberté, égalité, beau fessier ». Là, tout de suite, on fait moins la fine bouche.
Julia, le dernier rapport Eurostat sur l'égalité des genres en Europe nous donne le chiffre de la semaine.
Oui et non. En fait, j'hésite. Hein. Je pourrais prendre le 66% des femmes en âge de travailler ont un emploi en moyenne en Europe contre 78% des hommes. Mais bon, 66, c'est quand même 6 points de plus qu'en 2010, donc on va se dire que ça va dans le bon sens. Hein. Alors, je pourrais choisir le 16% d'écart salarial moyen entre les hommes et les femmes. Oui, mais souvenez-vous, jusqu'en 65, elles n'avaient même pas accès à leur compte en banque, donc on va dire que oui, ça avance encore. Hein. Du coup, il y aurait bien ce 75% des Européennes qui ont déjà été harcelées sexuellement. Bon, en même temps, si on peut plus draguer, non, mais c'est vrai, le harcèlement, quand même, c'est hyper subjectif hein, comme notion. Je sais pas si ça sert vraiment le combat pour l'égalité entre les sexes, tout ça. Les violences physiques, tiens, c'est peut-être mieux, ouais. Un point dans la gueule, au moins, c'est net, hein, ça laisse des traces, ça parle, quoi. Et oui, j'ai une Européenne sur trois dit avoir été agressée physiquement ou sexuellement au moins une fois dans sa vie depuis l'âge de 15 ans. Aïe. Dites à voir. On n'est pas sur place quand ça se passe, alors on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Donc ce chiffre-là, je ne sais pas non plus s'il va suffire. Ah, là j'en ai un. Là c'est du fiable. Là on est pile dans l'actu. On trouve en moyenne 27,9% de femmes dans les parlements nationaux, soit moins d'un tiers des sièges. Au Parlement européen, elles sont à peine plus, 36% de femmes. Du coup, idée. Peut-être que dans 3 mois, je dis bien peut-être, hein, on pourrait essayer d'aller tous ensemble vers une plus juste représentation de l'électorat. Hein? Ah pardon, dans le casque, on me dit que c'est fait. C'est une information du journal Le Point, citée par Eurostat, elle date de l'an dernier. Le président du Parlement européen a été missionné pour écrire une lettre à la Commission et au Conseil européen afin d'attirer l'attention sur ce problème de sexe ratio. Oh bah s'il a été missionné l'an dernier pour écrire une lettre sur le sexe ratio, ça devrait bouger. Offrez-nous des fleurs le 8 mars et tout ira bien.
Julia, on termine avec une étude assez révolutionnaire dans le genre.
On est sur du breaking news là, je comprends même pas qu'Amélie Perrier n'ait pas ouvert dessus. Bon, hein. Les hommes seraient plus intolérants à la douleur que les femmes. Non! Eh ben si, c'est ce que vient de démontrer une équipe de chercheurs de l'université de Toronto. Ils ont enfermé une quarantaine d'hommes et de femmes dans une pièce, leur ont comprimé 20 minutes le bras à l'aide d'un appareil qui ressemble à un tensiomètre, leur ont alors demandé d'évaluer la douleur ressentie sur une échelle de 1 à 100. Pour info, elle était si vive qu'il n'était que 7 à la placer au-dessous de 50. Le lendemain, rebelote, les chercheurs les enferment de nouveau, certains dans la même pièce, d'autres dans une pièce différente. Là, je me demande qui sont les plus chelous, hein, les chercheurs qui enferment des cobayes pour leur faire mal ou les cobayes qui retournent après avoir eu mal. Mais bref, rebelote, donc, même brassard, même pression, même durée. Eh bien, les hommes qui se sont retrouvés dans la même pièce que la veille ont ressenti une douleur bien plus forte que la première fois et bien supérieure à celle des femmes. De là, les chercheurs en déduisent que les cerveaux masculins impriment beaucoup plus fortement le souvenir d'une douleur. De là, vous en déduisez, vous, au choix, que les femmes ont une mémoire de poisson rouge ou que les hommes sont des chochottes, c'est vous qui voyez.
Julia Foyce, la chronique pour tous, à mardi prochain, Julia.
À mardi.
Le 18-20, Pierre Veil, sur France Inter.
Le monde à l'envers, Cyril Sauvageau. Cyril, nous partons ce soir pour la Chine où l'Assemblée nationale populaire a ouvert aujourd'hui sa session annuelle. La grande messe du Parti communiste chinois est l'occasion pour le président Xi Jinping de réaffirmer sa mainmise sur le pouvoir. Mais cette année, Cyril, le contexte lui est un peu moins favorable.
Oui, on est bien loin de l'euphorie qui avait marqué la session précédente de cette Assemblée. Souvenez-vous, il y a un an, le Parlement chinois votait la possibilité pour Xi Jinping de rester président à vie avec l'abolition de la limite du nombre de mandats. Autre fait marquant, la pensée Xi Jinping était tout bonnement inscrite dans la Constitution, un honneur réservé aux plus grands dirigeants de l'histoire chinoise. Autant dire que le président apparaissait au fait de sa popularité, incontestable et indéboulonnable. Un an plus tard, le climat a changé, la guerre commerciale avec les États-Unis, le ralentissement de l'économie, mais aussi les accusations d'espionnage technologique qui empoisonnent le géant Huawei. Tout cela pèse sur le pouvoir en place et assombrit quelque peu les perspectives, même si bien entendu l'autorité de Xi Jinping, sa légitimité ne sont pas publiquement mises en cause.
Donc il ne faut pas s'attendre à une fronde anti-Xi Jinping lors de ce congrès ?
Non, certainement pas. Le président chinois a suffisamment bien verrouillé le système pour étouffer toute contestation. Et d'ailleurs, l'Assemblée nationale populaire n'est pas là pour débattre. Elle ne fait qu'approuver les décisions prises par le pouvoir central. Il faut donc s'attendre plutôt à des discussions lisses et convenues qui confirmeront les orientations voulues par Xi Jinping. Mais en coulisses, observent les experts, les tensions sont bien présentes aux plus hauts échelons du parti. Un signe ne trompe pas, le plénum du comité central du PC chinois ne s'est pas réuni depuis un an alors qu'il aurait dû être convoqué à l'automne. Pour les observateurs, c'est la preuve que le président doit faire face à des débats en interne. Des observateurs qui traqueront le moindre signe, la moindre allusion pendant cette session de l'Assemblée, comme il y a 2 ans quand l'ancien président Jiang Zemin s'était fait remarquer en bâillant ostensiblement pendant le discours de son successeur.
Et la principale épine dans le pied du président chinois, si je puis dire, c'est donc l'état des relations avec les États-Unis.
La guerre commerciale menée par Donald Trump a déjà commencé à causer des dégâts. Xi Jinping est accusé d'aggraver le climat de tension entre Pékin et Washington. En a-t-il trop fait en voulant jouer d'égal à égal avec son homologue américain ? C'est ce que certains lui reprochent. Il faut dire que le contexte économique est moins favorable qu'il n'a été. La croissance chinoise est au plus bas depuis 30 ans. L'endettement s'aggrave, les investissements reculent. Le Premier ministre Li Keqiang a d'ailleurs ouvert la session de l'Assemblée populaire tout à l'heure en annonçant un plan de bataille, une série de mesures pour défendre la croissance. Mais au-delà du spectaculaire affrontement Chine-États-Unis, c'est tout le projet ambitieux de Xi Jinping. Projet diplomatique, technologique, militaire qui suscite des interrogations. Face à ces tiraillements en interne, il pourrait consentir à quelques ajustements, mais il ne faut pas s'attendre à un changement de cap. L'objectif est toujours et plus que jamais d'exporter le modèle chinois, de renforcer sa présence partout dans le monde et de faire de la Chine la nouvelle superpuissance du 21e siècle.
Le monde à l'envers, Cyril Sauvageau, à réécouter bien sûr sur le site de l'émission Un jour dans le monde.